Je pense que ce faisant, alors la thèse d'Orcibal, elle a de grands avantages, notamment l'avantage d'éviter de parler de jansénisme pour tout et n'importe quoi. Le jansénisme, ça n'est pas le puritanisme, ça n'est pas l'austérité. Bon, on emploie jansénisme à toutes les sauces, donc ça, Orcibal a tout à fait raison. Et puis, c'est aussi une thèse qui privilégie les modifications. Le jansénisme, il n'est pas toujours identique au cours des siècles. En revanche, je pense que c'est une thèse qui maintenant a un gros défaut, c'est que ça nous empêche, enfin, ça nous permet a priori de ne plus penser l'unité du jansénisme et on s'en débarrasse. Voilà, c'est pratique sur le plan historiographique. Alors, à mon avis, il y a deux raisons qui font que le jansénisme n'est plus, on n'arrive plus en fait à le penser et à penser son unité. La première raison, c'est que le jansénisme est une réalité qui est éclatée dans notre historiographie. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et puis, l'autre chose, je vais peut-être d'abord commencer par expliquer ça. Alors, pour comprendre la manière dont l'historiographie française comprend le jansénisme, il faut remonter aux premières décennies du 19e siècle. Au début du 19e siècle, dans les premières décennies, vous avez de graves débats sur sur les classiques. Qu'est-ce que c'est que l'âge classique ? Alors, ce n'est pas un débat entre littéraires, hein, c'est des débats politiques. En réalité, la manière dont on va concevoir les relations entre 17e et 18e siècle, c'est une manière de se positionner par rapport à l'héritage de la Révolution française. Et vous avez, à l'époque, deux écoles qui vont s'affronter. Une école qui va viser à penser le XVIIe et le XVIIIe siècle comme un seul et même âge classique. Et puis vous avez, de l'autre côté, une autre école de gens qui vont construire le XVIIe siècle contre le XVIIIe siècle et vice-versa. Et c'est cette deuxième école qui va l'emporter et ça va conditionner complètement notre manière de faire. Bon, souvenez-vous, on leur a donné des titres hein, quand on était au lycée, voilà, il y a le grand siècle, le siècle des Lumières. Alors évidemment, à l'époque, ça a une importance politique considérable, c'est-à-dire que, pour caricaturer, si vous êtes contre la Révolution française, vous allez faire jouer le XVIIe siècle de Bossuet contre celui des Lumières. Si au contraire, vous êtes libéral, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire vous voulez assumer l'héritage de la Révolution, vous allez faire jouer le 18e contre le 17e. C'est cette conception du 17e, 18e siècle qui s'est imposée dans l'enseignement scolaire, universitaire, et on en est complètement les héritiers. Et alors, comment est-ce que vous faites, dans ces cas-là, pour faire rentrer le mouvement janséniste qui court alors du milieu du XVIIe siècle, en réalité jusqu'au XIXe, je vais laisser de côté le jansénisme du XIXe siècle, mais comment vous le faites rentrer une fois que vous avez éclaté les siècles? Alors ça se complique en plus à l'époque, parce que autour de ces débats, qui ont encore une fois une connotation politique, vous avez la constitution d'un canon littéraire national. Hein, c'est une sorte de panthéon littéraire national qui est absolument essentiel. Je prends juste un exemple, mais regardez le. Je ne sais pas si vous avez encore utilisé. Moi, c'était encore le cas à mon époque, mais le Lagarde et Michard. Bon, en grand, voilà. Lagarde et Michard, c'est typiquement l'héritier de ce schéma-là. Et donc, vous avez une mise en valeur très forte de figures. Alors, jansénistes, je vais expliquer après, mais du XVIIe siècle, qui sont des gloires littéraires nationales. Donc, le XVIIe siècle, vous pouvez l'identifier comme le faire rentrer dans le panthéon littéraire. En revanche, les jansénistes du XVIIIe siècle, qui sont des jansénistes, c'est un mouvement populaire, politique, hein, d'opposition à la monarchie, parlementaire, et en plus, dedans, vous avez les convulsionnaires de Saint-Médard, donc le cimetière qui n'est pas très loin d'ici, c'est-à-dire des gens qui étaient pris de convulsions sur la tombe du diacre Paris et qui entendaient prouver la vérité de leur cause par ces convulsions. Ensuite, il y a eu plein de dérives assez sordides. Et donc, évidemment, vous ne pouvez pas faire rentrer les jansénistes du XVIIIe siècle dans le canon littéraire national. Ils n'ont aucune lettre à faire valoir. Donc, vous avez, si vous voulez, le XIXe siècle, dans la manière dont il a conçu les institutions qui vont donner notre école, qui vont donner notre université, a divisé le XVIIIe siècle et le XVIIe siècle en deux, et le jansénisme, ça ne rentre pas dedans. Voilà. Donc vous avez un premier problème, si vous voulez, qui est dû à la manière dont le XIXe siècle a pensé cette affaire-là. Alors ça se renforce en plus par le fait que dans l'université française, on adore les divisions par siècle. Alors, vous êtes 17e, vous êtes 18e, donc le jansénisme, il faut que vous fassiez votre choix. Et en plus, ça recoupe des réalités qui sont des réalités disciplinaires. C'est-à-dire que si vous regardez historiquement, qui s'est intéressé aux jansénistes du XVIIe siècle ? Ce sont les littéraires et les philosophes pour Pascal et Arnaud. Et puis qui s'est intéressé aux jansénistes du XVIIIe siècle ? Ce sont les historiens, avec une perspective d'histoire religieuse, mais dans un but d'histoire politique. Donc vous avez aussi le problème disciplinaire des universitaires qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas. Donc si vous voulez, le jansénisme est une réalité qui, dans nos institutions, en tout cas en France, est une réalité éclatée. Et donc, a priori, il est difficile d'en penser l'unité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le jansénisme, on a intégré comme une explication de nature historiographique ce qui était à l'origine l'argument principal des jansénistes. Que disaient les jansénistes d'eux-mêmes ? Ils disaient « Nous ne sommes pas jansénistes, nous sommes augustiniens. Nous défendons la pensée de saint Augustin qui est attaquée et donc nous sommes augustiniens. » Donc, c'est pour ça que Antoine Arnauld, par exemple, un grand défenseur de jansénisme, parlait du fantôme du jansénisme. Alors, fantôme, on peut le comprendre au sens effectivement qui vient nous hanter, mais à l'époque, ça ne voulait pas dire ça. C'est l'illusion. C'est une illusion, le jansénisme. Ça n'existe pas. Son vrai nom, c'est l'augustinisme. Alors, ça, c'était un argument, c'était même l'argument principal du mouvement janséniste. Or, par tout un processus qui passe, à mon avis, par les historiens libéraux allemands, type Arnac, etc., les protestants jouent un rôle très important là-dessus, on va finir par intégrer ça comme une explication de nature historiographique. Par exemple, moi, mon maître Philippe Sellier, à qui j'ai commencé mes études en maîtrise, pour lui, jansénisme, ça n'existe pas. Le jansénisme, c'est l'augustinisme. Et d'ailleurs, il plaide pour ne pas dire jansénisme, augustinisme, il faut parler d'augustinisme. Alors, le problème que ça pose, c'est que ça supposerait que vous auriez l'augustinisme qui se baladerait dans le ciel des idées, vous savez, et qui tomberait tout cru. Mais l'augustinisme, en réalité, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, quand on lit une œuvre aussi ancienne, aussi touffue, complexe que celle d'Augustin, il est évident qu'on va lui plaquer des grilles de lecture. Il y a des augustinismes différents. L'augustinisme, l'hypostasier d'Augustinisme, c'est un non-sens. Donc, on peut quand même se dire qu'il est problématique de ne faire, pour comprendre le jansénisme, de ne faire que répéter ce que les jansénistes disaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire croire que on aurait l'augustinisme comme un bloc et le jansénisme ne serait en réalité que ça. Donc la deuxième raison, c'est qu'en réalité, on a dissous le jansénisme en ne voulant pas voir ou en ne voulant plus voir les lectures qui sont faites d'Augustin. Parce que le problème du XVIIe siècle, c'est quand vous lisez un auteur ancien, c'est quelle grille de lecture vous lui appliquez. On peut par exemple prendre des exemples tout simples. Au XVIIe siècle, vous parlerez, je crois, la fois prochaine du quiétisme. Dans la querelle quiétiste, Bossuet et Fénelon se tapent dessus. Bossuet et Fénelon sont tous les deux des augustiniens. Tous les deux. Donc ça veut bien dire que l'augustinisme, ce n'est pas une réalité monolithique. Voilà. Donc, il me semble important de prendre au sérieux cette question des grilles de lecture et essayer de comprendre comment est-ce qu'on a lu Augustin. Donc, vous voyez, vous avez deux raisons a priori de ne pas comprendre, deux raisons a priori de ne pas pouvoir expliquer ce qu'est le jansénisme, et donc finalement de le dissoudre. En fait, le jansénisme n'existe pas, c'est un nom qui recoupe des réalités diverses et qui, sur le plan théologique, n'est rien d'autre que l'augustinisme. Alors ça, c'est une... c'est pas une thèse, parce qu'en réalité, elle est défendue par... Mais c'est assez majoritaire, ce que je viens de vous décrire. Bon, alors moi, je vais vous donner un autre point de vue qui n'est pas forcément le point de vue le plus courant, c'est-à-dire je pense qu'il y a bien une unité du jansénisme, une unité de nature théologique. Et donc, je vais essayer de répondre à ces deux questions, ces deux raisons, l'éclatement du jansénisme et la question de l'équivalence entre jansénisme et augustinisme. Alors, je vais peut-être commencer par la deuxième question, la question de l'augustinisme. Donc, on vous a distribué, je crois, le frontispice de l'Augustinus. Alors, comme on a juste une demi-heure, et comme je parle devant une assemblée de Tala, je vais faire un truc très théologique. Hein. Je peux rajouter des éléments historiques, mais on va foncer directement sur la théologie. Donc, l'Augustinus, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un ouvrage monstrueux, 1600 colonnes de latin, un latin truffé de, je sais pas comment on dit, de néerlandisme, enfin bref, Jansénus était un flamand en réalité, voilà. Qui est publié en 1640, ouvrage que Jansénus a préparé pendant une vingtaine d'années dans le plus grand secret. Hein. Alors, il faut, je vous donne quand même deux, trois éléments de nature historique. Au milieu du XVIe siècle, vous avez le Concile de Trente. Et le Concile de Trente, qui a pour objectif à la fois de répondre aux protestants et aussi de lancer la réforme catholique, enfin la réforme de l'Église catholique, va consacrer une session à la question de la justification. La justification, au sens technique du terme, c'est-à-dire faire juste. Comment est-ce que Dieu rend juste un homme pécheur ? Voilà. Et dans ce décret sur la justification, les pères du Concile rappellent ou indiquent deux éléments, c'est-à-dire que Dieu nous sauve par grâce, que cette grâce est prévenante, imméritée, donnée gratuitement sans aucun mérite préalable, et qu'en même temps, l'homme est doué d'un authentique libre arbitre. Et avec tout ça, débrouillez-vous. Alors, comme vous le savez, l'expression dogmatique n'est pas là pour clore le débat théologique, mais elle est là pour permettre le débat théologique. Hein. C'est contrairement à ce qu'on pense. Je pense qu'on peut dire des conciles ce que Foucault disait de Marx et de Freud, les instaurateurs de discursivité. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a de la théologie ? Précisément parce qu'il y a des conciles qui tracent le cadre à l'intérieur duquel va pouvoir émerger le débat théologique. Pour le dire autrement, un concile, ce n'est pas fait pour régler un problème, c'est fait pour en créer d'autres. C'est toujours comme ça que ça a marché. Donc, le problème va se déplacer du débat entre catholiques et protestants à un débat interne à l'Église catholique. Et vous avez dedans trois grandes écoles dont je parlerai tout à l'heure, pour simplifier, parce qu'en réalité, il y en a plein d'autres, mais trois grandes écoles, l'école augustinienne, et c'est à l'intérieur de l'école augustinienne que se développera le jansénisme. Vous avez l'école thomiste, des lecteurs essentiellement dominicains de Thomas d'Aquin, et puis une nouvelle école, le molinisme, du nom de Molina, un théologien jésuite de la fin du XVIe siècle. Alors, c'est un débat à trois, mais au début, vous avez d'abord une première série de condamnations d'un augustinien qui s'appelle Baius, qui est à l'université de Louvain, et puis ensuite vous avez un énorme débat entre dominicains et jésuites, entre thomistes et molinistes. Et ils se tapent tellement dessus que le pape Clément VIII fait venir des représentants des deux parties dans des congrégations, c'est-à-dire qu'ils vont débattre devant le pape ou ses cardinaux. Et ça va durer de 1597 à 1608, enfin à la frontière, mais donc relativement longtemps. Clément VIII meurt, Paul V continue, et à la fin, Paul V dit « Bon, bah, écoutez, vous n'êtes pas d'accord », et le Saint-Siège refuse de trancher. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de cette période-là, le Saint-Siège dit « Les trois grandes écoles théologiques, augustiniennes, thomistes et molinistes, ont le droit d'enseigner leur propre tradition théologique en matière de grâce, à condition de ne pas s'accuser d'hérésie. » Ce que, bien sûr, personne n'a respecté. Donc, si vous voulez, la politique du Saint-Siège, c'est un cas un peu étrange où, au lieu d'avoir, si vous voulez, si on prend des débats christologiques ou trinitaires dans l'Antiquité, vous aviez des expressions doctrinales pour borner une erreur. Voilà. Ici, le Saint-Siège, en fait, gèle la situation. Ça reste une question disputée, interdiction de s'accuser d'hérésie. Alors, que veut faire Jansénus, qui est un évêque, qui est un universitaire à la base, hein, déjà, mais devenu évêque d'Ypres? Eh bien, il veut permettre au Saint-Siège de trancher les controverses qui sont restées suspendues. Mais il veut le faire en disant, de la manière suivante, il dit, le problème, c'est que et les thomistes et les molinistes sont pris par des siècles de théologie scolastique. Et pour comprendre la vérité de la grâce, il faut revenir au docteur de la grâce. Alors, entre parenthèses, je vous dis, sachez que j'ai fait une enquête. J'ai été très étonné, mais en réalité, le terme de docteur de la grâce apparaît pour la première fois à la fin du XVIe siècle et pour la deuxième fois dans l'Augustinus. En réalité, c'est quasiment une invention, alors soit de Jansénus, soit de son copain Saint-Cyran. À l'époque, chez lui, ça veut dire quelque chose, et ensuite le terme va perdre sa connotation polémique pour s'imposer et le connaître. Enfin, et s'imposer tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, que veut faire Jansénus ? C'est donc revenir à l'autorité d'Augustin. Donc il va présenter une somme qui est une somme présentant la théologie augustinienne de la grâce, mais donc ça a toutes les apparences, si vous voulez, d'une grande thèse universitaire, sauf qu'en réalité c'est un écrit de combat. Hein, l'objet, ça se termine par une comparaison entre les semi-pélagiens et les molinistes. Donc en réalité c'est une thèse polémique. Voilà. Alors, si vous prenez le frontispice, donc la gravure initiale, on trouve en fait l'essentiel de la méthode de Jansénus. Donc, on peut la lire de haut en bas, je vais la lire de bas en haut plutôt. Vous avez le titre qui est indiqué. En bas, vous avez trois hérétiques qui sont piétinés. Au centre, Pélage. Alors, je crois que vous avez déjà eu une conférence de Jean-Marie Salamito sur le pélagianisme, donc je n'insiste pas trop. Pélage et son copain Célestius et Julien Desclanes, qui sont piétinés par quatre papes et Augustin, et qui sont présentés comme des démons. Vous avez ensuite quatre papes, Innocent Ier, Boniface Ier, Zosime Ier, si vous cherchez un prénom pour vos futurs enfants, Zosime, je vous conseille, ce n'est pas très courant, et Célestin. Et que font-ils ? Eh bien, ils piétinent les hérétiques, mais surtout, ils tendent vers Augustin leur sceau pour indiquer qu'ils canonisent la doctrine d'Augustin. Et vous remarquez qu'Augustin, qui est au centre, alors il est très fort parce qu'il tient son cœur enflammé et un livre avec une plume, donc il arrive à écrire d'une seule main, mais vous remarquez qu'Augustin est au-dessus des papes. Il est placé ici en position de supériorité. Les papes ne font qu'attester que sa doctrine est la doctrine catholique. Alors là, ce que veut dire la gravure, c'est ce que pense Jansénus, c'est que la doctrine catholique en matière de grâce, la doctrine catholique de manière exclusive, c'est la doctrine d'Augustin. Tout Augustin, rien qu'Augustin. Donc c'est un fondamentalisme augustinien. En gros, Augustin a tout dit. Le Saint-Siège n'est là que pour valider. Et alors, évidemment, ici, vous avez une lecture historique. Ici, ce sont les papes de l'époque qui ont vécu à la fin de la vie d'Augustin et juste après sa mort qui auraient canonisé sa doctrine en tant que telle. Mais évidemment, c'est une lecture, c'est une gravure qui se lit aussi dans un sens actuel, c'est-à-dire que le livre qui était destiné au pape Urbain VIII avait pour but que Urbain VIII refasse le même geste que ses prédécesseurs, c'est-à-dire recanonise la doctrine d'Augustin pour condamner le molinisme. Et évidemment, qui est capable de présenter la doctrine d'Augustin ? C'est un universitaire. Il parle en tant qu'évêque, mais en réalité, il parle surtout en tant qu'universitaire. C'est quelqu'un qui, c'est l'érudit, c'est celui qui connaît Augustin. Alors vous voyez, donc évidemment, c'est lui. C'est-à-dire, en gros, je vous donne, monsieur le pape Urbain VIII, je te donne le contenu de la doctrine catholique, et tu n'as plus qu'à sanctionner. Voilà. Alors évidemment, vous comprenez bien que ce type de discernement théologique, alors qui repose sur une idée, c'est la théologie positive, c'est-à-dire qu'en gros l'érudit a un rôle très important, c'était inacceptable pour le Saint-Siège. C'est-à-dire que l'idée d'un magistère vivant disparaît totalement avec cette idée-là. Donc vous voyez qu'à travers la question théologique de la grâce, vous avez en réalité une réalité qui est une réalité, une des questions directement ecclésiologiques. C'est qui a l'autorité dans l'Église ? On peut rajouter aussi tout de suite une dimension politique. J'insiste pas là-dessus, mais Jansénus est un flamand. Il est sous l'autorité du roi d'Espagne et ses soutiens en France sont contre la politique de Richelieu qui s'allie aux protestants contre. Donc il y a aussi tout de suite une dimension politique qui se rajoute à ça. Mais je laisse ça de côté. Alors, si vous regardez la suite, enfin, si on continue à remonter, Augustin a le cœur et l'intelligence, enfin, son auréole enflammé par un soleil, où vous voyez marqué la citation de Romains 5:5, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors ça, c'est très important, parce que le jansénisme, contrairement à ce qu'on croit, c'est une doctrine de l'amour. Fondamentalement, c'est une doctrine de l'amour. C'est ça le cœur de l'affaire. Alors je reviendrai tout à l'heure sur les nuages qui sont derrière. Donc vous voyez ici à peu près la procédure, en gros le projet qui est celui de Jansénus. Alors je précise que son bouquin paraît de manière posthume. Il est mort de la peste au moment où il l'a terminé. Donc et il soumet son livre à l'autorité du Saint-Siège, tout en disant dans le bouquin à chaque fois que c'est lui qui. Alors je pense qu'il faut prendre au sérieux la démarche de Jansénus, qui consiste à essayer de voir quelle est la pensée d'Augustin, en ayant toujours en tête que, encore une fois, un auteur ancien, surtout un auteur ancien, on le lit toujours avec des questions, des concepts qui sont ceux d'une époque. Et ça c'est vrai pour nous aussi, c'est pas propre à l'époque de Jansénus. Alors, je vais essayer de vous présenter les choses de manière la plus simple possible, parce que c'est une controverse qui a duré un siècle et demi, qui est partie dans tous les sens. L'important c'est de réduire ça à quelque chose, d'aller au cœur du problème. Si vous regardez, alors déjà, on vous a peut-être expliqué que chez Augustin, il y avait deux Augustins. L'Augustin jeune, bon, il croyait bien au libre arbitre. Puis à la fin, vous comprenez, il vieillit un peu et puis il devient un peu aigri et donc à la fin, bon, la liberté, ça disparaît. Bref, c'est une catastrophe. En gros, il faudrait faire jouer le jeune Augustin contre le vieil Augustin. Je pense que c'est totalement faux. Il y a une lignée complète, c'est totalement cohérent. Mais bon, prenons les derniers textes d'Augustin, les pires, vous savez, le De Correctione et Gratia, la correction et la grâce, l'Enchiridion, ceux vraiment de la fin. Voilà. Dedans, vous avez un point qui est absolument essentiel. Donc là, ce que je vous dis, ça a été montré par Pierre-Marie Humbert, s'il y a des spécialistes d'Augustin dans la salle, ils le connaissent certainement, qui a montré ça, et je pense que c'est absolument essentiel. Pour Augustin, Augustin nous dit que les justes sont sauvés par la même grâce qui a fait que le Christ a toujours voulu le bien, par la même grâce. Alors, ça ne veut pas dire que Augustin nierait le fait que l'incarnation est un cas unique. Évidemment, Jésus est un cas unique, puisque c'est le Fils éternel qui unit en sa personne deux natures, une humaine et une divine, unies sans confusion ni séparation. Mais de cette grâce capitale, comme on dit dans la théologie scolastique, cette grâce capitale découle, et c'est la même grâce qui fait que les justes sont justifiés et que les élus sont sauvés. Alors ça, c'est essentiel, ça veut dire qu'en réalité, pour Augustin, il y a un fondement christologique à la doctrine de la grâce. La doctrine de la grâce est fondée sur la christologie. Alors, évidemment, Augustin meurt avant, quelques années avant le concile de Chalcédoine, et nos esprits un peu sourcilleux sur les questions de chronologie pourraient dire « oui, bon, lire Augustin à la lumière du concile de Chalcédoine, c'est anachronique bon, ». Déjà, il faudrait quand même réussir à montrer que la christologie d'Augustin serait contraire à Chalcédoine, je pense que ça serait difficile. Mais en tout cas, pour le XVIIe siècle, peu importe, le XVIIe siècle croit très largement au consensus des pères. Les pères de l'Église ont dit tous la même chose. Et s'ils n'ont pas dit tous la même chose, il y a des spécialistes. Bon, et Augustin est au-dessus. Et ils ont dit la même chose que les conciles. Donc pour un homme du XVIIe siècle, il n'y a aucune difficulté à le faire. Alors, je reviens sur cette question christologique. C'est essentiel parce que le cœur du problème de cette affaire-là, c'est de savoir quelle est la part de l'homme et la part de Dieu dans leur œuvre commune. Quand j'agis librement, mû par la grâce de Dieu, qui agit ? C'est Dieu et moi. Comment est-ce qu'on va faire tenir les deux choses en même temps ? Alors, pour vous donner le cœur de l'affaire, c'est que moi, je pense que pour Augustin, et de manière plus générale, je pense que là, pour le coup, on est sur quelque chose de vraiment fondamental, on ne peut penser un acte qui soit totalement humain, totalement émanant totalement du libre arbitre de l'homme, et qui soit en même temps totalement divin, c'est-à-dire émanant totalement de la grâce divine, on ne peut le penser que dans la personne du Christ. C'est parce que le Christ agit toujours totalement en homme et totalement en Dieu que nous pouvons nous-mêmes faire un acte totalement libre qui nous est totalement attribué et totalement divin parce qu'il est totalement attribué à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que hors du cadre que trace Chalcédoine, de la christologie chalcédonienne, vous êtes condamné à faire entrer le libre arbitre de l'homme et la grâce divine dans un rapport de force selon le principe des vases communicants. Ce que vous accordez à Dieu, vous le retirez à l'homme et vice-versa. Si on veut sortir de ce schéma de vases communicants, il y a un seul cadre possible, je pense, c'est celui de la christologie chalcédonienne. En tout cas, clairement, dans le dernier Augustin, c'est ça qu'il défend. Donc, en gros, chez Augustin, le libre arbitre est total. On attribue une œuvre totalement au libre arbitre et totalement à la grâce divine, parce que le Christ a deux natures unies sans confusion ni séparation, parce que le Christ a toujours agi totalement en homme et totalement en Dieu. Alors, pour le dire simplement, le XVIe et le XVIIe siècle, enfin, l'époque moderne, est incapable, enfin, j'ai cherché, hein, ne fonde plus les débats sur la grâce, sur la christologie. Ce qui est quand même fascinant, c'est que, regardez par exemple, ils se sont étripés pendant plus d'un siècle sur la question de l'union de la volonté de l'homme avec la volonté de Dieu, sans jamais se référer à la théologie de Maxime le Confesseur, et aux décrets conciliaires, le concile du Latran et le concile de Constantinople III, sur les deux volontés du Christ. C'est-à-dire qu'autrement dit, le XVIIe siècle est empêtré, alors je dis le XVIIe siècle, hein, pas que les jansénistes, tous, ils sont tous empêtrés là-dedans, parce qu'ils ne fondent plus les questions de la grâce sur la christologie. Et ce faisant, ils entrent dans un schéma qui est un schéma mécanique. Alors, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, ils n'emploient que des métaphores qui sont des métaphores mécaniques physiques. Des histoires de jets d'eau, de boules, de chaînes qui tirent, etc. C'est-à-dire que le modèle pour comprendre l'union de la grâce et de la liberté, c'est le modèle de la physique, mécanique. Donc, le premier élément que je voudrais vous indiquer, c'est que je pense que les controverses sur la grâce à l'époque moderne sont des controverses qui n'ont pas trouvé de résolution, parce que tout simplement, la doctrine, la réflexion sur la grâce n'est plus fondée sur la christologie. C'est-à-dire que quand ils lisent Augustin, ça ne les intéresse plus, les questions christologiques. Ou bien, quand ils rattachent à la christologie, vous aboutissez à des positions christologiques qui sont absolument, absolument indéfendables. Moi, je pense qu'en réalité, les questions des gratia et les questions des Christos sont devenues des questions séparées. En faisant ça, ils entraient dans une controverse qui est proprement insoluble. Donc, premier élément, une sorte de déconnexion de la grâce et de la christologie. Alors, deuxième élément, je vais en fait redire la même chose, mais à travers... Il y a des philosophes dans la salle ou pas? Il n'y a pas de philosophes dans la salle. Il y en a... Bon, je vais être obligé de parler un petit peu de causalité. Vous allez voir, c'est très très simple. On peut prendre le problème, en fait, sous un autre angle. Dans l'histoire de la théologie latine, grosso modo au Moyen-Âge, à la naissance de la théologie scolastique, la théologie latine intègre des éléments de la philosophie d'Aristote, et notamment intègre le concept de cause. Voilà. C'est-à-dire que désormais, pour penser l'action de Dieu et l'action de l'homme, on va utiliser le concept de cause. On peut tout à fait contester que le concept soit opératoire, mais en tout cas, c'est la voie qu'a choisie la théologie latine. Donc, on va essayer de se couler dedans. Alors, je vais essayer de vous tracer rapidement un historique qui part de Thomas d'Aquin jusqu'à Jansénus. Pour Thomas d'Aquin, l'homme et Dieu agissent l'un et l'autre comme cause première et cause seconde. Alors, je les ai dit à l'envers, c'est évidemment Dieu qui est la cause première et l'homme qui est la cause seconde. Et pour Thomas d'Aquin, l'homme et Dieu, enfin, la cause divine et la cause humaine sont des causes totales subordonnées. Subordonnées parce que la cause première, elle est première ontologiquement, voilà, mais, et donc la cause seconde est subordonnée à elle, mais ce sont deux causes totales. C'est-à-dire que, alors il prend ici l'image du peintre, lorsque un peintre peint un tableau, la cause, le tableau en tant que cause efficiente, hein, l'effet produit, c'est-à-dire le tableau, il est totalement produit par le peintre, mais il est aussi totalement produit par le pinceau. Alors nous, ça nous paraît ridicule, mais en causalité aristotélicienne, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la causalité instrumentale. Le seul problème, c'est... Alors, simplement, ici, le cas particulier, c'est que c'est un peintre libre qui peint avec un pinceau libre. Voilà, l'image a ses limites. Alors évidemment, philosophiquement, ça pose un problème, parce qu'on aboutit quasiment à une aporie, c'est-à-dire qu'ici, l'action, la cause première, agit à travers la cause seconde, sans jamais se substituer à elle. Donc, elle respecte, Dieu respecte la cause seconde en tant que vraie causalité. Mais ça veut dire qu'il va prédéterminer l'action de la cause seconde sans jamais la nécessiter. Donc, c'est prédéterminant et pas nécessitant. Ça veut dire qu'il y a bien une action de la cause première à travers la cause seconde, et pourtant, ça n'enlève en rien le fait que la cause seconde libre a toujours la possibilité de choisir. Alors, l'idée importante à retenir ici, chez Thomas d'Aquin, c'est que la cause première et la cause seconde agissent comme deux causes totales. Vous avez un changement dans la théologie à partir de Duns Scott et ensuite de Guillaume d'Ockham, qui vont introduire quelque chose de révolutionnaire, qui va avoir des conséquences considérables, y compris pour la création des sciences, hein, telles qu'on les conçoit. C'est-à-dire que désormais, ils vont penser la relation entre cause première et cause seconde comme deux causes partielles concurrentes, deux causes partielles qui vont dans le même sens. Alors, deux causes partielles, Ockham prend un exemple, il dit « Dieu est comme un homme fort qui peut porter un poids de 10. » Il pourrait porter le poids de 10 tout seul. mais il va suspendre sa puissance et ne porter que 9 pour laisser l'homme faible, c'est-à-dire l'homme, porter un poids de 1. Vous voyez désormais que ce n'est plus le même système de causalité. La cause première et la cause seconde sont sur le même plan. Vous ne pouvez donner de la place à la causalité seconde qu'à condition que la cause première retire un peu de sa puissance. Elles sont sur le même plan. Alors, ce schéma de cause partielle concourante, c'est exactement ce qui va aboutir chez Molina, dont je parlais tout à l'heure, il est dans le schéma des systèmes de cause partielle. Il a une image, il dit « Dieu et l'homme sont comme deux hommes qui tirent un bateau, vous savez, le long d'une rive avec le chemin de halage. C'est bien une œuvre commune, et pourtant, chacun fait une partie du boulot. » Voilà. Hein, Dieu apporte, pour le dire autrement, chacun apporte sa part du pique-nique. Dieu apporte le surnaturel, l'homme apporte la liberté. Et voilà. Mais c'est des causes partielles. Et le débat entre thomistes et molinistes, c'est un débat de causes, un débat concernant les causes. Alors, Jansénius arrive là-dedans. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas, il veut contester le système de causalité moliniste. Le cause partielle, ça ne lui va pas du tout. Parce que lui, il veut que Dieu soit une authentique cause. Mais il ne le fait pas en revenant à un système qui serait par exemple le système de Thomas d'Aquin, pas avec un système de cause totale, il invente un nouveau système. Et donc le jansénisme, ça n'est pas en fait le retour à l'augustinisme, c'est l'invention d'un système moderne. Quel est ce système? Alors chez lui, c'est un système de nature historique. Le péché originel sert de bascule. Avant le péché originel, pour jansénisme, alors lui, il préfère parler de cause dominante et de cause dominée. Avant le péché originel, quelle était la cause dominante? Qu'est-ce qui faisait que Adam restait dans le bien? La cause dominante, c'était sa liberté. La cause dominée, c'était la grâce de Dieu. Donc dans le jansénisme, en fait, en Adam, Adam maîtrisait la grâce divine. Il la faisait jouer. Il était la cause dominante. À partir du péché originel, il y a une inversion. Désormais, c'est la liberté de l'homme qui devient une cause dominée. Et la cause dominante devient la grâce divine. Alors, premier point, vous voyez ici que le jansénisme pose un vrai problème qui concerne l'état primitif de l'homme. Parce que, si vous le dites en termes thomistes, ça veut dire que, en Adam, la grâce, la liberté de l'homme était la cause première. Ça veut dire aussi que la grâce était soumise au bon vouloir de la liberté d'Adam. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, ce qui a été bien montré par Henri de Lubac dans son ouvrage Surnaturel, c'est que le jansénisme à l'origine, c'est surtout un problème de conception de l'homme avant le péché originel. Mais c'est aussi un problème de conception de l'homme après le péché originel. Pourquoi? Dans le système causal janséniste, l'efficience, c'est-à-dire le fait qu'une cause soit porteuse d'effet, l'efficience n'est accordée qu'à une des deux causes. Chez Thomas d'Aquin, dans le système de cause première et cause seconde, l'efficience, elle est totalement du côté de la cause première et totalement du côté de la cause seconde. L'effet est produit par les deux causes, totalement. Dans le système de Jansénius, la seule cause qui est efficiente, c'est la cause dominante. La cause dominée est une cause sine qua non. Sans elle, il n'y a pas d'œuvre commune, mais ce n'est pas elle qui a l'efficience. Ça veut dire qu'en Adam, qui porte l'effet du fait qu'il reste dans le bien, c'est Adam. Et après le péché originel, quand Jésus-Christ donne sa grâce, qui porte l'effet du fait que nous sommes sauvés? C'est la grâce divine. Alors vous voyez ici tout de suite le problème, c'est que la cause dominée, c'est-à-dire notre liberté après le péché originel, se voit refuser l'efficience. Ça veut dire que, en réalité, alors ça, Pascal l'a dit de manière très claire dans les écrits sur la grâce, il dit, on peut attribuer à Dieu et à l'homme la totalité de leur œuvre commune, mais on peut aussi n'attribuer qu'à Dieu l'œuvre et la refuser à l'homme. Alors, vous voyez le problème que ça pose en termes de conception de la liberté de l'homme, notre liberté n'est plus efficiente, et le problème que ça pose en termes christologiques. Ça veut dire que ça n'est pas la liberté humaine du Christ unie à sa liberté divine qui est cause du salut. C'est des problèmes christologiques absolument fondamentaux. Donc pour moi, la théologie janséniste, elle a une réalité substantielle. C'est une grille de lecture qui est posée sur Augustin avec un système causal nouveau. C'est-à-dire qu'en réalité, Jansénius plaque sur Augustin un débat qui lui est postérieure, c'est la poursuite d'un débat de scolastique médiévale, en inventant un système nouveau qui non seulement pose un problème concernant le surnaturel avant le péché originel, mais aussi concernant la liberté de l'homme après le péché originel. Alors, donc, je pense que, ça c'est la première chose, quand on dit donc que le jansénisme n'est que l'augustinisme, je pense que l'on se trompe. La question c'est quelle est la lecture qui est faite par Jansénus. La lecture, enfin moi que je vois, c'est celle que je vous ai donnée, et on voit bien que c'est une grille de lecture appliquée à Augustin à travers des problèmes qui lui sont postérieurs et qui, je pense, sur le fond, trahissent ce que nous pouvons comprendre d'Augustin. Il est évident que si le fondement est christologique, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, le deuxième élément, il me reste juste quelques minutes, donc je vais vraiment résumer ce que je voulais vous dire, ça concerne l'éclatement du jansénisme en plusieurs volets, grosso modo en deux volets. D'un côté, le bon jansénisme, celui du XVIIe siècle, il est spirituel, il est littéraire, il est beau, ils sont merveilleux, on les appelle du nom de Port-Royal, hein, le monastère autour duquel s'organisait le mouvement de défense de l'Augustinus. Alors, Port-Royal n'est pas que jansénisme, Port-Royal, c'est quand même le cœur de la défense de Jansénus. Et puis de l'autre côté, vous avez les méchants. Alors voilà, le jansénisme politique, le jansénisme convulsionnaire. Donc vous voyez, une sorte de bipartition tout à fait sympathique. Alors, il me semble que là encore, les choses sont en réalité plus complexes. Pour le dire en quelques mots, on sait que les jansénistes du XVIIIe siècle croyaient en une doctrine qui est la doctrine de l'obscurcissement général de la vérité dans l'Église. En réalité, cette doctrine, elle est forgée dès le tout début du mouvement de Port-Royal par l'abbé de Saint-Cyran. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine? C'est une doctrine qui consiste à dire la chose suivante. Dans les premiers siècles de l'Église, le combat de la vérité et de l'erreur, c'était entre l'Église et les hérésies. Mais plus l'Église s'éloigne au cours du temps de l'origine, plus la charité se refroidit en elle, plus on s'éloigne de la lumière des origines, plus l'Église va intégrer en son sein le combat de la vérité et de l'erreur. Et désormais, le combat de la vérité et de l'erreur, il a lieu entre catholiques, à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire que plus on s'approche de la fin des temps, plus il y a dans l'Église un obscurcissement général des vérités de la foi. Comment Dieu fait-il alors pour maintenir la perpétuité de la foi ? Eh bien, Dieu le fait en suscitant des défenseurs à l'intérieur de l'Église, parce que c'est toujours dans l'Église visible qu'aura lieu, enfin, c'est l'Église visible qui est détentrice des vérités. Et donc, quelques défenseurs de la vérité qui seront persécutés par les autres membres de l'Église, y compris le clergé. Y compris le clergé. Et donc, ces défenseurs-là auront pour but d'être les ultimes défenseurs de la vérité, jusqu'à l'apostasie finale et l'apparition de l'Antéchrist et le retour du Christ. Alors, ici, c'est donc une conception où un certain nombre de catholiques, parce qu'ils connaissent et qu'ils comprennent le vrai sens de la tradition, ont pour but d'être des martyrs de la vérité à l'intérieur de l'Église. Et alors, comment Dieu opère-t-il cela? Eh bien, Dieu opère cela grâce à un certain nombre de signes. Alors, ça peut être les miracles, ça peut être l'écriture, ça peut être les textes de la tradition, mais on peut démultiplier les choses. Et ces signes, les jansénistes, en tout cas français, Port-Royal pour employer ce terme-là, a une conception en fait du signe comme ambivalent. C'est le même signe qui va faire que certains vont être éclairés et que certains vont être obscurcis. Alors Pascal l'a dit, il a dit « on ne comprend rien » aux choses de Dieu, je paraphrase, hein, si on ne comprend pas que les œuvres de Dieu sont faites à la fois pour damner certains et pour sauver d'autres. C'est-à-dire que le même signe va opérer un jugement. Le discernement eschatologique, il est en cours, il a lieu dès maintenant. Par exemple, l'Augustinus, vous avez l'Augustinus, vous n'avez même pas besoin de le lire, vous êtes contre l'Augustinus, ça y est, vous êtes jugé, vous avez basculé. Vous avez basculé du côté de ceux qui sont dans l'obscurité. Alors, c'est fondé sur une ecclésiologie qui est très originale à l'époque, parce qu'à l'époque, la conception dominante de l'Église, elle avait été donnée par Bellarmin. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'était une société parfaite, de fidèles qui fréquentent les sacrements et qui sont sous l'autorité du pape. Voilà, c'était une conception très formelle de l'Église. C'était ça la conception dominante. Les jansénistes avaient une conception beaucoup plus proche de la nôtre, c'est-à-dire ils s'appuyaient sur l'idée du corps du Christ. Mais en réalité, c'est Vatican II à l'envers. Pour nous, le corps du Christ déborde l'Église visible. Au-delà de l'Église visible, il y a les semences de vérité, etc. Là, c'est exactement l'inverse. C'est à l'intérieur de l'Église visible, il y a le corps du Christ, le corps des vrais fidèles, de ceux qui sont vraiment dans la vérité. Et ce corps, il se réduit de plus en plus, puis on s'approche de la fin des temps. Pourquoi il se réduit? Parce qu'il est opprimé par un autre corps, qui est le corps de l'Antéchrist, qui grandit à l'intérieur de l'Église. En gros, quand vous passez de la lumière à l'erreur, enfin, quand un signe vous fait basculer, eh bien, vous passez du corps du Christ au corps de l'Antéchrist. Donc, en réalité, je pense que le jansénisme, de ses origines jusqu'à ses dernières manifestations publiques au XXe siècle, est structurellement un mouvement de nature apocalyptique. C'est un mouvement apocalyptique. Alors, je pourrais préciser aussi les choses, un mouvement apocalyptique qu'on peut rapprocher en réalité d'autres mouvements qui n'ont pas de lien historique avec eux. C'est, à mon avis, une des lignes de conduite qui permettrait de penser l'unité du mouvement janséniste, de ses origines jusqu'à la fin, sans nier les mutations profondes et les ruptures qu'il y a pu avoir entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il ne s'agit pas de compresser tout le monde, mais il y a une ligne de conduite qui est cette conception apocalyptique de l'histoire de la vérité. Alors il me semble que ces deux éléments, qui est une lecture particulière d'Augustin à travers une grille de lecture, et puis cet élément apocalyptique, sont deux marqueurs de ce qui serait, c'est en tout cas la thèse que je défends, le jansénisme, qui a donc une véritable unité. Et ça permet aussi de comprendre que les jansénistes aient toujours refusé de quitter l'Église. Je veux dire, pourquoi ? Parce que c'est dans l'Église visible qu'il faut subir le martyre de la vérité, pas à l'extérieur. C'est donc un mouvement qui a toujours refusé, quoi qu'il arrive, et les condamnations portées par le Saint-Siège, mais également le schisme. Voilà. Donc ça permet aussi de comprendre ce positionnement assez particulier des jansénistes qui veulent être les gardiens de la vérité, les derniers des Mohicans, mais à l'intérieur d'une église qui les persécute. Voilà. J'ai débordé. Alors oui, les nuages, vous voyez, c'est dans la gravure, c'est Augustin qui chasse les ténèbres de l'erreur, mais vous pouvez aussi les lire dans un deuxième temps, c'est l'obscurcissement ici de la vérité. C'est-à-dire les nuages augmentent à l'intérieur de l'Église, plus on s'approche de la fin des temps. Il y a aussi une lecture de nature apocalyptique. Voilà, excusez-moi, j'ai débordé, mais il nous laisse... Alors, je ne sais pas si c'est... je vais terminer, sinon je vais couper. Alors, je ne sais pas si on peut parler de quelque chose de très révolutionnaire chez Augustin. En fait, Augustin ici exprime quelque chose que vous retrouverez chez Bernard de Clairvaux. Enfin, c'est pas forcément très révolutionnaire. C'est l'idée que nous sommes sauvés non seulement par la volonté divine du Christ, mais également par sa volonté humaine, divinisée, si vous voulez, pour parler comme les pères grecs. Donc, premièrement, je pense pas que c'est révolutionnaire, c'est plus que Augustin est un conservatoire de cette idée assez fondamentale que notre liberté humaine ne se comprend qu'à la lumière de la liberté humaine du Christ. Autrement dit, le Christ, alors c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que pour comprendre Adam, il faut partir du nouvel Adam. Pour comprendre la Genèse, il faut partir de l'Évangile. Pour comprendre le péché, il faut partir de la grâce. Pour comprendre la liberté de l'homme, au sens, il faut peut-être partir sortir de la liberté humaine du Christ. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxièmement, je ne sais pas si on peut... bien sûr, il y a ici, ce n'est pas le problème de savoir si le Christ est cause ou pas. C'est surtout que c'est dans la personne du Christ, si vous voulez, que nous pouvons avoir une œuvre qui soit intégralement humaine et intégralement divine. Voilà. C'est dans la personne du Christ. Vous voyez, chez Augustin, par exemple, il y a l'idée du Christ total qu'il utilise dans un autre domaine. Et c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que l'Église, en tant que corps du Christ, que continuité du corps du Christ, c'est le lieu où, par l'action de l'Esprit-Saint, nous pouvons unir notre liberté totalement humaine à la liberté de Dieu. C'est dans la personne de Jésus que ceci est réalisable. Alors évidemment, la personne du Christ ressuscité dans son Église, avec la pneumatologie et la doctrine des sacrements qui va avec. Donc si vous voulez, je pense que c'est moins... Le problème, c'est moins la cause, Jésus en tant que cause, c'est plutôt que dans sa personne même, on peut penser une œuvre qui soit intégralement humaine et intégralement divine. Ensuite, peut-être que le concept de cause, tel que nous le concevons, est totalement inopérant pour ça. Peut-être que la théologie latine s'est complètement fourvoyée. Notamment, je n'ai pas précisé, mais entre la théorie aristotélicienne des quatre causes, hein, l'efficience, c'est qu'une des quatre causes. En fait, au XVIIe siècle, la causalité se réduit à la question de l'efficience. C'est notre conception de les causes. Qu'est-ce que c'est qu'une cause ? C'est ce qui produit un effet. Donc déjà, nous n'avons même plus le même concept de cause que celui de Thomas d'Aquin. Voilà. Donc, pour répondre rapidement, je pense que il faut aller plutôt du côté de toutes les phrases pauliniennes où c'est « soyez dans le Christ ». C'est dans la personne du Christ continuer aujourd'hui. Voilà, pour le dire avec des termes de théologie de patristique grecque, nous ne pouvons être divinisés que dans la personne, du Christ. Nous ne pouvons être unis à la divinité que dans la personne du Christ. Voilà. Alors ça a des conséquences, je vous donne déjà parlé, très importantes au-delà de ce débat technique. C'est par exemple la liturgie. La liturgie repose intégralement sur cette idée-là. La liturgie, c'est une œuvre. Le père Armogat disait « Je suis un travailleur manuel ». Bon, vous ne l'avez pas connu, mais... Bon, c'est une œuvre totalement humaine, la liturgie. Totalement humaine, mais c'est en même temps l'opus Dei. C'est totalement l'œuvre de Dieu. La liturgie, c'est un conservatoire de cette idée que j'appelle théandrique. Voilà. Mais c'est vrai de la vie spirituelle, de la pastorale, etc. Le discernement. Si je discerne en disant... Ça vient de Dieu, donc ça vient pas de moi, donc ça vient de Dieu. J'ai entendu ça. C'est une manière de concevoir le discernement qui n'est pas théandrique. Ça doit venir intégralement de moi et intégralement de Dieu. Donc je pense que ça déborde très largement ce problème philosophico-théologique de la liberté. C'est en réalité, est-ce que toute la réalité humaine, intégralement, sans qu'elle soit niée, limitée, peut être totalement le lieu d'une expression de... la totalité de l'œuvre de Dieu. Voilà. Excusez-moi. Oui. Alors, donc, effectivement, les marqueurs pastoraux du jansénisme, c'est pas le refus de donner l'absolution, hein. C'est le fait de distinguer, c'est en gros, quelqu'un se confesse, on attend qu'il ait donné des preuves d'une authentique conversion pour lui donner l'absolution. C'est un retard d'absolution. Deuxièmement, une pratique effectivement eucharistique de communion peu fréquente, mais ce n'est pas propre aux jansénistes. Les jansénistes, il y a d'autres, des gens non jansénistes qui pratiquent ça. Et puis vous avez refus du culte du Sacré-Cœur, version Marguerite à la coque, etc. Tout ça, en réalité, ce n'est pas le jansénisme du 18e siècle. Tout ça, c'est la spiritualité de Saint-Cyran. Donc c'est les origines. Saint-Cyran, c'est le copain de Jansénus. C'est Antoine Arnauld, la communion fréquente. Voilà. Mais effectivement, ça devient des marqueurs. Alors, ensuite, je sais, effectivement, il y a cette thèse, moi je ne suis pas historien au sens ça, mais on a dit effectivement qu'on pouvait superposer à une époque où les gens se déplaçaient relativement peu, la carte de la déchristianisation et la carte des paroisses jansénistes. Bon, c'est une thèse qui a été effectivement défendue.
Est-ce que, dans quelle mesure, le lien entre ce que le 18e siècle entre le
Alors, je pense que effectivement, il y a le jansénisme du XVIIIe siècle, effectivement, un jansénisme beaucoup plus politique. Pour simplifier, Port-Royal a une conception désenchantée de la politique. Il respecte le roi. Pourquoi? Parce que bon, le roi qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, Dieu l'a mis là pour notre punition. Donc voilà. Donc c'est pas des contestataires. Même si il y a des frondeurs qui sont liés à ça. C'est-à-dire, je pense que Louis XIV s'est complètement planté en croyant qu'il avait affaire à de la contestation politique. C'était plus voilà. En revanche, effectivement, il y a dans la fronde, enfin dans la contestation des parlementaires au XVIIIe siècle, enfin qui contestent la monarchie absolue, il y a une frange clairement janséniste. Mais pour moi, là, je pense qu'il faut employer un terme de marxiste. C'est ce qu'on appelle comment on appelait ça, l'alliance objective. Les marxistes, vous êtes, c'est l'alliance objective. C'est-à-dire, vous ne pensez pas la même chose, mais sur tel point, vous êtes des alliés objectifs. Les jansénistes, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire, au XVIIIe siècle, vous pouvez être augustinien, contre la théologie, contre la morale probabiliste, gallican, alors comme on l'entend au 18e siècle, hein, ce n'est pas le gallicanisme du 19e, hein, c'est la défense des libertés gallicanes, c'est la défense de la liberté de l'Église de France. Oui, je pense qu'il y a quand même eu des changements, hein, mais vous pouvez être tout ça et ne pas être janséniste. Simplement, comme vous êtes, les jansénistes sont aussi augustiniens contre la théologie probabiliste. Donc, si vous voulez, les jansénistes ont réussi à capter pour leur cause des alliés qui sont des alliés objectifs. On le voit par exemple avec la bulle d'Unigenitus, il y avait des gens qui la refusent pour des raisons qui ne sont pas ceux des jansénistes, et ils se retrouvent dans le camp en fait des jansénistes. Donc oui, effectivement, et là-dessus, c'est vrai qu'il y a une vraie rupture, c'est pas du tout la même chose au XVIIe siècle. Ils sont beaucoup plus, notamment sur le plan politique. Oui.
Si on vous entend bien, finalement, les trois écoles, on va dire, au XVIIe siècle, qui sont intéressées à la question de la grâce, on fait un peu l'erreur et sont hétérodoxes.
Non, je ne dirais pas qu'elles sont hétérodoxes. Vous avez les trois écoles, augustiniennes, molinistes et thomistes. À ma connaissance, elles n'ont, le moliniste n'a jamais été condamné. Moi, je ne suis pas moliniste, hein, mais je dis clairement, il n'a jamais été condamné. Et dans l'école augustinienne, le Saint-Siège s'est borné à condamner le baianisme et le jansénisme. Donc, en gros, je ne dis pas qu'elles sont hétérodoxes, ce n'est pas le problème. Je dis juste qu'elles n'ont pas réussi à régler leurs différends, leurs problèmes, pour deux raisons. D'abord parce que en raison de l'occultation christologique dont j'ai parlé, et deuxièmement parce qu'ils sont empêtrés dans des systèmes de causes qui n'arrivent plus à penser une œuvre totalement humaine, totalement divine. Donc c'est pas de l'hétérodoxie. C'est, si vous voulez, le problème c'est pas la question est-ce que j'ai la vérité ou est-ce que j'ai pas la vérité. La théologie c'est pas l'histoire du dogme. La théologie c'est confus, ça part dans tous les sens, on peut à une époque être complètement enferré dans des impasses. Voilà, c'est l'histoire de la théologie, c'est une impasse théologique. Donc, ce n'est pas de l'hétérodoxie. En revanche, bon, effectivement, le jansénisme, il y a quand même eu des condamnations, donc c'est quand même, là, pour le coup, le problème se poserait différemment.
Est-ce que,
oui, c'est la thèse que j'ai présentée au début. Non, mais c'est-à-dire, ensuite, je parle en tant qu'historien, est-ce que le Saint-Siège s'est bien débrouillé avec ces cinq propositions à moitié? Vous savez qu'ils sont des résumés de l'Augustinus, hein, voilà, donc elles ne sont pas verbatim dedans. Et est-ce que ça a été un bon marqueur, un bon révélateur? Il n'est pas sûr, hein, il n'est pas sûr du tout que le Saint-Siège ait géré correctement cette affaire-là. Donc, si vous voulez, disons qu'il y avait une très grande difficulté à faire apparaître les jansénistes comme hérétiques en raison de leur positionnement ecclésiologique et apocalyptique dont j'ai parlé. Voilà. Et deuxièmement, je pense aussi que le Saint-Siège était dans l'incapacité lui-même à poser clairement le problème de la querelle de la grâce, parce qu'il était lui-même empêtré dans les mêmes problèmes. C'est-à-dire, si effectivement ils avaient compris qu'il y avait un problème d'ordre christologique et qu'il fallait un peu débrouiller cette question de causalité, peut-être qu'ils auraient posé les choses différemment. Vous voyez ? Donc je ne suis pas certain qu'on l'aurait prêté. Si vous voulez, il y a une présomption d'hériticité, si vous voulez, qui n'ont peut-être pas réussi à prouver correctement. Oui.
Si j'ai encore le temps, juste deux minutes. C'est là, c'est sur Pascal, c'est ce que je figuratif. Il écrit aussi contre les apocalyptiques. Donc en tout cas, il y a vraiment des tendances aussi à Port Royal qui essaient de lutter peut-être contre une lecture trop apocalyptique, mais qui est probablement une tentation fréquente contre les persécutés. Enfin,
alors, je vous invite.
Et sinon, c'est deux citations que vous avez faites. La première, les écrits sur la grâce, vous dites que on peut à la fois dire que Dieu et l'homme sont la cause, mais on peut aussi dire que Dieu est la cause seule. Alors, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'il prend la peine d'écrire les deux? C'est-à-dire qu'il dit que les deux sont vrais. Ça ne veut pas dire donc, que la première phrase était fausse, de dire que l'homme et Dieu étaient cause.
Oui.
Et votre remarque, c'est quand vous avez cité sur la damnation des clartés. Enfin, moi, je comprends l'inverse, je me balade avec le fragment, mais c'est la Fuma 236. Il y a assez de clarté pour éclairer les élus et assez d'obscurité pour les humilier.
C'est pas ce passage-là, c'est on ne comprend rien aux œuvres de Dieu si l'on ne sait plus quoi. Je vous retrouverai le passage, mais oui.
Oui, mais on sait juste. C'est-à-dire que si les choses étaient trop claires, c'est d'ailleurs ce qu'il écrit, c'est dans la clarté qu'on condamne le méchant. En fait, laisser l'obscurité, le fait que le méchant n'a pas dans son aveuglement, ne comprend pas le signe, finalement, c'est plutôt quelque chose qui fait qu'il ne sera pas condamné. C'est la clarté qui condamne.
Comme il nous reste juste quelques secondes, ce que je vais faire, je vais vous envoyer, si vous avez la patience de me lire, mon mémoire d'habilitation qui répond sur la question des figuratifs et sur la question du signe. Je vais vous envoyer, le plus simple, c'est que je vous envoie mon petit bouquin qui n'est pas encore paru pour vous répondre. Pour le dire, je pense quand même que chez Pascal, Pascal théorise une doctrine du signe qui est une doctrine ambivalente. C'est le même. Bien sûr, vous pouvez tout de suite, Dieu peut décider, en vous donnant sa grâce, de vous faire passer du corps de l'Antéchrist au corps du Christ. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire, vous êtes pas, le jugement eschatologique, il est toujours modifiable jusqu'à votre mort. Mais vous avez quand même, c'est Dieu est lui-même l'auteur de l'obscurcissement de la vérité dans son Église pour faire manifester la force de sa vérité qui ne peut être défendue par quelques petits défenseurs. Voilà. Alors ensuite, pour Pascal, je vais répondre parce que je pense que le cœur de l'affaire, on peut entrer dans tous les détails qu'on veut, il faut sauver le soldat Pascal. Le problème, c'est que Pascal, c'est Saint Blaise Pascal, je sais le poids français qu'il y a là-dessus. Je pense qu'il faut être, je vais juste vous dire voilà, ma position sur cette affaire-là. Le Pascal des écrits sur la grâce, c'est un Pascal janséniste. C'est-à-dire que quand il dit, on peut dire, on peut tout attribuer à Dieu à l'homme et on peut tout attribuer à Dieu et retirer à l'homme, il ne fait que dire, avec ses termes à lui de manière géniale, le système causal qui est celui de l'Augustinus. Donc le Pascal des écrits sur la grâce, pour moi, il est clairement janséniste au sens où je vous l'ai défini. Ensuite, le Pascal des pensées. On n'en sait rien, parce que ça n'est pas une œuvre de théologie au sens de théologie. Peut-être que Pascal a abandonné le jansénisme à la fin de sa vie. Peut-être pas. Je n'en sais rien du tout. Voilà. Je ne préjuge pas du tout de cette situation-là. En revanche, les écrits sur la grâce, les provinciales et même certaines pensées, l'obscurcissement de la vérité, il est explicite, clairement indiqué dans les pensées. Là, vous avez clairement des marqueurs qui sont des marqueurs jansénistes. Donc moi, si on me montre par A plus B que Pascal, à la fin de sa vie, a abdiqué le système théologique de Jansénus et a renoncé à cette perspective apocalyptique, je m'en réjouis. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. C'est pour ça que moi, la question de la canonisation de Pascal me pose, je vous dis clairement, de sérieuses questions. Je vous lis parce que je sais que vous êtes très. Enfin, que c'est très important pour vous. Moi, ça me pose problème. Oui.
Pourquoi c'est surtout
les yeux de Thomis? Alors, j'avais pas le temps de rentrer dans le détail, mais quand on parle de Thomis, c'est comme pour l'Augustinisme. Thomis, ça veut rien dire. Thomis qui tombe. C'est le Thomis, c'est la manière dont Thomas d'Aquin est lu. en matière de grâce, Thomas d'Aquin est lu à travers les œuvres de Domingo Bagnès, qui était le confesseur de Thérèse d'Avila. Or, Domingo Bagnès forge le système, son système causal contre le molinisme. C'est-à-dire que le concept de prémotion physique, c'est un concept qui vise à rétablir Dieu comme cause totale. Son problème, ce n'est pas la cause seconde. Donc, le système bagnésien, il est très bon pour répondre aux molinistes, mais il est totalement inopérant pour répondre aux jansénistes, parce que le problème des jansénistes, c'est le problème de la causalité subordonnée, de l'efficience de la cause de la liberté de l'homme. Donc, leur système est inopérant, et en plus, les thomistes, au moment, qu'est-ce qu'ils font en bon théologien? On leur dit qu'il y a 5 propositions. Ils attaquent les jansénistes sur les 5 propositions. C'est-à-dire, vous les voyez en même temps débattre avec les molinistes de questions de causalité et avec les jansénistes parler d'autre chose. Donc, je pense que le thomisme bagnésien du XVIIe siècle était inopérant pour répondre aux jansénistes parce que, tout simplement, il n'était pas forgé pour ça. Je ne sais pas, parce que si vous voulez, moi, je vous présente effectivement Thomas comme. Mais enfin, c'est Thomas, c'est en gros, conserve l'idée théandrique avec un système causal, mais qui pose lui-même des problèmes. Je ne suis pas thomiste en plus, hein, je vous le dis clairement. Moi, je ne fais pas jouer Thomas contre. Voilà. Si vous voulez, c'est à mon avis la dernière tentative pour garder l'idée théandrique dans un système de causalité aristotélicienne. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au XVIIe siècle, quand vous réduisez la cause à la question de l'efficience, vous radicalisez encore les choses. Et c'est la même causalité qui va servir à expliquer la physique telle qu'on la conçoit aujourd'hui. C'est-à-dire un système de cause-effet. Et ce qui est vachement, ce qui est vraiment problématique. Donc, si vous voulez, en fait, la théologie de Thomas pose également des problèmes. Hein. Voilà. Et disons que la seule chose, c'est, je pense, que Calcédoine trace un cadre hors duquel on est condamné à faire jouer grâce et liberté l'un contre l'autre, comme le système des vases communicants. D'où la nécessité de repartir, à mon avis, de la christologie.
Il va falloir tout skip, c'est dommage, c'est un débat passionnant. Merci beaucoup.
Merci à vous.